Bonsoir, on va donc entamer la 16e heure avec la fin des évangiles, ce qu'on appelle la semaine de la Passion, ce que les catholiques appellent la semaine sainte, qu'un auteur un peu poète a appelé surtout l'agonie d'amour. On va voir comment notre Seigneur s'est sacrifié, comment il est devenu notre Pâques. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre la tradition et les informations bibliques, et de s'apercevoir que les traditions chrétiennes sont des fois très loin de ce que la Bible nous enseigne. On enseigne par exemple qu'il y avait trois rois mages. En fait, il y avait sans doute davantage de rois mages, il y avait trois cadeaux. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ces cadeaux, la myrrhe? Et l'or, hein, les trois cadeaux. Donc il y en a qui ont pris ces trois cadeaux, ils ont dit on va donner un mage à chacun. On fait la même chose avec la tradition de l'Église catholique qui parle du fait que Jésus-Christ aurait été crucifié le vendredi saint. Et là aussi, on va voir d'où vient ce qui semble être une erreur. Si vous regardez dans Matthieu 28.1, on va sauter un peu, on va regarder dans les quatre évangiles des passages, et aussi dans l'Ancien Testament. Et avant de commencer, on va demander au Seigneur de bénir ce temps d'étude. Seigneur, nous ne voulons pas acquérir des connaissances intellectuelles, livresques, mais simplement voir la vérité que tu veux nous apprendre, Seigneur, et surtout que cette vérité transforme nos vies, nos cœurs, Seigneur. C'est une prière que nous répétons parce que nous savons que c'est ta volonté, Seigneur, ta parole, tu ne l'as pas donnée pour information, mais pour la transformation. Seigneur, apprends-nous à retenir les choses essentielles ce soir et surtout voir quel a été ton amour, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, dans Matthieu 28.1, le dernier chapitre de Jésus, il est dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. » Alors, pourquoi il est dit « Après le sabbat » C'est la tradition, ça. Parce qu'en fait, dans le texte grec, il est dit « Après les sabbats ». Les sabbats, on sait que le sabbat, c'était une fête qui avait été instituée, qui tombait le samedi. Il y avait donc 52 sabbats dans l'année, mais il y avait aussi d'autres sabbats à l'occasion des grandes fêtes religieuses du peuple juif, comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des Huttes et d'autres. Il y avait ce qu'on appelait aussi un sabbat, un jour de repos pour honorer le Seigneur. Donc il y avait 52 sabbats et il y avait aussi 7 autres sabbats additionnel. Il est dit dans Jean 19.31 que Jésus est mort le jour de la préparation. Le jour de la préparation, c'était la veille d'un sabbat. Jean 19.31, c'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat. Or, ce sabbat était un grand jour, ou une autre expression, ce serait un grand jour de sabbat. Un sabbat spécial. Il y avait les sabbats hebdomadaires, et puis de temps en temps, il y avait ces sabbats supplémentaires. Et les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever, les corps, après leur avoir brisé les jambes. Ça, c'est dans Jean 19.31. Donc, on sait que Jésus est mort la veille d'un sabbat. S'il y a le pluriel, après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, lorsque les femmes se rendent au tombeau, ça veut dire qu'il y a eu deux sabbats dans la semaine. Ça veut donc dire qu'il y a un de ces sabbats spéciaux qui est tombé pendant la semaine. C'était à l'occasion de la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, vous vous souvenez, avait été instituée à l'occasion de l'Exode. Ils avaient mangé l'agneau à la hâte, avec des pains qui avaient été préparés sans levain parce qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que le pain lève avec le levain. Et si Jésus avait été crucifié le vendredi, en fait, la fête des pains sans levain serait tombée le samedi et il n'y aurait eu qu'un sabbat. Le mot serait au singulier, or le mot est au pluriel. Un autre problème avec la crucifixion se passant le vendredi, c'est que Jésus lui-même a dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, 40. Alors si Jésus est mort vendredi après-midi et qu'il est ressuscité dimanche matin, comme c'est enseigné traditionnellement, ça fait plutôt 2 jours que 3 jours. Mais ils disent qu'en fait, les Juifs comptaient, dès que on avait passé un petit moment de la journée, on comptait ça comme un jour. Alors on veut bien, on va dire que Jésus est mort le vendredi, donc il a passé un jour dans le ventre de la baleine, entre guillemets. Samedi, il a passé un autre jour complet, et puis dimanche matin, juste un petit bout de journée, là, ça ferait 3 jours. Alors, à la limite, on veut bien admettre cette théorie, mais Jésus a dit qu'il allait passer 3 nuits dans le sein de la terre. Et là, je suis désolé, mais le compte n'y est pas. Du vendredi au samedi, ça fait 1 nuit, du samedi au dimanche, ça fait 2 nuits, il n'y a pas 3 nuits. Donc on dit, c'est la tradition, c'est une façon de compter. Mais en fait, si on considère que le jour de la fête des pains sans levain, la Pâque, est tombé le mercredi, alors à ce moment-là, on va voir que tout s'harmonise. Mais allez dire aux gens que le vendredi saint, c'est en fait le mercredi. Le calendrier probable de la semaine sainte, et là je suis encore une fois le Chuck Missler, qui est l'auteur qui a eu cette idée de la Bible en 24 heures, il dit le vendredi, Jésus est à Béthanie, c'est dans Jean 12:1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qui avait ressuscité d'entre les morts. Alors, 6 jours avant la Pâque, c'est un vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. La Pâque serait mercredi, le jour de la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain commençait par la Pâque juive. Et puis après, c'était suivi de 7 jours. Donc le vendredi, Jésus est à Béthanie. Le samedi, il entre à Jérusalem, c'est son entrée triomphale qu'on voit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Et on sait, d'après l'étude qu'on a faite de la prophétie de Daniel 9, que c'était en fait le 6 avril 32 après Jésus-Christ, donc de l'ère chrétienne. Le dimanche, c'est le moment où Jésus maudit le figuier. Vous vous souvenez de cet épisode? Le lundi, ce serait le complot contre les chefs. Le complot des chefs juifs contre Jésus. Ça, on trouve ça dans Matthieu 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Encore une fois, si on a la Pâque le vendredi, on n'est pas en harmonie. Alors que là, si on dit que le complot c'est le lundi, on a le mardi et le mercredi, ça tombe sur la Pâque. Le mardi, vous savez aussi qu'une chose importante, c'est que les Juifs comptaient les jours différemment de nous. Nous, on compte de minuit à minuit. Eux, ils commençaient à 6h du soir jusqu'à 6h du soir. Donc, le mardi soir, la Sainte Cène, c'est en fait déjà la journée du mercredi, c'est le jour de la Pâque qui est commencé au coucher du soleil le mardi soir. Et puis cette journée du mercredi, il y a l'arrestation nocturne, il y a les procès de Jésus, je dis les procès parce qu'on verra qu'il y en a eu 6 en fait, tous aussi illégaux les uns que les autres. Et puis il y a la crucifixion, le jour de la Pâque. Jésus est notre Pâque, a dit Paul. Le jeudi, c'est le lendemain de la Pâque, c'est le début de la fête des pains sans levain. Ça, on trouve, ça c'est établi dans Lévitique. Si vous avez des questions que vous vous posez sur les fêtes, il faut vous souvenir du chapitre 23 du Lévitique. Lévitique 23, versets 4 à 8. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, vous annoncerez au temps fixé. Le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Encore une fois, c'est de soir à soir, du mardi soir au mercredi soir, dans notre cas. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Donc le jeudi, c'est la fête des pains sans levain. Le vendredi, c'est la journée où les femmes préparent les épices pour aller embaumer le corps de Christ, qui est dans la tombe depuis le mercredi. Le samedi, c'est toujours le repos du sabbat. Il est dit dans Luc 23, 56, que pendant ce jour de sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement de l'Ancien Testament. Et il y avait une autre fête qui faisait partie de cette série de fêtes qui commençait par la Pâque, suivie des fêtes des pains sans levain. Il y avait ce qu'on appelait la fête des prémices, ou des premiers fruits, ou encore des premières gerbes. Lorsque les premières récoltes arrivaient, les Juifs prenaient des branches, des gerbes de ces premiers fruits et les consacraient au temple en les bougeant. Et on sait que cette fête des pains sans levain, des premiers fruits, elle était le lendemain du sabbat. Ça, c'est dans Lévitique 23,15. Donc le lendemain de la fête du sabbat, de la fête des pains sans levain, il y avait cette fête des premiers fruits. Et il est dit dans Acte 26 que Jésus a été ressuscité le premier d'entre les morts, et dans la Bible il est considéré qu'il est le premier né comme un premier fruit de la résurrection, et que nous allons être la récolte, la moisson qui va suivre de tous ceux qui auront mis leur foi en Christ. Mais Jésus, c'est le premier né d'entre les morts, le premier ressuscité. Donc Jésus, lui, il serait ressuscité à la fin du samedi soir, et le dimanche matin, il était ressuscité. On sait que les femmes l'ont trouvé, Marie-Madeleine l'a trouvé le dimanche matin, le tombeau était vide. Mais elle n'a pas dit qu'il était ressuscité. Il était effectivement ressuscité le dimanche, il était ressuscité le lundi, il est ressuscité aujourd'hui. Mais la résurrection, pour que ces fêtes cadrent, il faut qu'elle ait eu lieu le samedi soir. Et là, à ce moment-là, si on a la crucifixion le mercredi, à ce moment-là, on a bien nos 3 jours dans la tombe, 3 jours complets, et on a nos 3 nuits dans la terre. Alors, ça ne change pas notre foi en Christ, en son sacrifice. Ça nous montre simplement qu'il faut regarder ce que dit la Bible. Et que souvent, on est très confus au niveau de ce qu'on a hérité de la tradition et de ce que dit la Bible. Et c'est frappant de voir que dans le texte grec, c'est le pluriel de sabbat. Et c'est de là que tout vient. Il y a dû avoir 2 sabbats dans cette semaine pour que ça colle. Et après, on voit comment on n'a pas besoin de recourir à des artifices en disant que les Juifs comptaient. Dès qu'on avait passé une journée, on était considéré comme c'était une journée de 24 heures. Non, c'est faux. On voit qu'en fait, tout peut coller. Mais là encore, c'est à nous d'aller voir, c'est à nous de rechercher. Et ce que je vous dis, encore une fois, allez le vérifier par vous-même. Peut-être que vous avez des questions. On va pas trop avoir le temps de débattre là-dessus si on veut couvrir tout ce qu'on veut couvrir ce soir. Mais c'est intéressant de réaliser que le dimanche matin, il y avait la fumée, comme dit Chuck Missler, dans le temple, il y avait la fumée qui montait à partir du sacrifice des premiers fruits, et au même moment, il y avait les femmes qui découvraient une tombe vide, un tombeau vide. Jésus était le premier fruit d'entre les morts. Ça, c'est un peu donc pour voir le calendrier. Alors, on va essayer de reprendre un peu ces différents événements. D'abord, l'entrée triomphale à Jérusalem, qu'on place donc le samedi avant le samedi, ce qu'on appelle traditionnellement dans la religion catholique le samedi saint. Le samedi d'avant, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem de Jésus-Christ, qui remplit ainsi la prophétie de Zacharie 9. On peut regarder Zacharie 9:9. Alors, c'est page 937 dans la Bible à la colombe, à la fin. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est cette prophétie qui est réalisée lorsque Jésus fait son entrée triomphale, donc ce qu'on appelle des fois dans la religion catholique le jour des rameaux. Et là, c'est célébré le dimanche, mais en fait, on s'aperçoit qu'il faut que ce soit plutôt le samedi, d'après notre chronologie à rebours. Il y avait un monde fou à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était la grande fête juive. Il y avait trois fêtes dans le calendrier des fêtes religieuses d'Israël, qui était essentiellement au nombre de sept, et tous les hommes juifs devaient assister à ces trois fêtes à Jérusalem. Il y avait la Pâque, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fois la fête des pains sans levain. Il y avait la Pentecôte, qui était la fête des moissons, qui se passait sept semaines après la première gerbe, 7 fois 7, 49, plus 1, 50. Pentecôte, ça vient de 50. Et puis il y avait la fête des huttes ou la fête des tabernacles, qui elle se passait à l'automne et où les Juifs célébraient le souvenir de la providence de Dieu dans la traversée du désert en vivant à l'extérieur de leur maison, dans des petites huttes, souvent sur le toit des maisons. C'est une fête qui est encore célébrée aujourd'hui. J'ai connu des Juifs aux États-Unis qui, dans leur enfance, célébraient encore cette fête des huttes sur le toit des maisons. Pendant cette arrivée à Jérusalem, il chante le psaume 118. Alors on va juste parcourir un peu, si vous voulez regarder, c'est page 609. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours, etc. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Donc il y a une partie qui est messianique. On voit donc cet homme qui s'écrit ainsi de célébrer l'Éternel. Il va être haï, il va crier de sa détresse. Verset 24, il y a un verset que l'on cite souvent. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle soyons dans l'allégresse et dans la joie. Et là, il était question juste avant de la pierre que avaient rejetée ceux qui bâtissaient et devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et c'est vrai qu'on applique un peu plus loin, il est béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est les mots qui vont être pris dans Matthieu, dans Jean, dans Marc. Hosanna, c'est béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Souvent, cette expression, c'est ici la journée de l'Éternel, voici le jour que l'Éternel a fait. On chante ce chant pour dire toute journée est une journée que l'Éternel a faite. Et c'est vrai dans un sens, toute journée est une journée que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous donne, qui fait ce jour. Mais véritablement, ce chant, il était chanté dans l'idée de cette entrée triomphale à Jérusalem. C'était dans le psalmiste, c'était ce jour spécial, l'entrée triomphale. On a vu dans la prophétie de Daniel 9 que c'était le jour qui allait arriver après 69 périodes de 7 ans, 483 ans, après le décret permettant, ordonnant la reconstruction de la muraille de Jérusalem dans Néhémie 2.1. Là, on sait que c'était le roi Artaxerxès qui avait signé ce décret le 14 mars 445 avant Christ, et que quand on ajoute 69 semaines, 69 fois 7 années, on arrive exactement à la période du 14 de la date dont j'ai parlé tout à l'heure, du 6 avril 32, le jour que l'Éternel a fait. Et dans Luc, on va lire Luc 19:35 qui relate aussi cet événement. On a donc plusieurs passages dans les évangiles synoptiques qui donnent la même vision, grosso modo, des choses. Dans Luc 19:35 et suivant, Jésus leur dit d'aller chercher un petit ânon, d'entrer dans le village et de prendre l'ânon sur lequel aucun homme ne s'était jamais assis. Et verset 31, si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Verset 33, comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent le vêtement et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. » Reprenons le psaume 118. « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Ce qui est bien avec les pharisiens, c'est que des fois, lorsque nous, on ne saisit pas ce qui se passe, eux ne manquent pas de réaliser l'importance, la signification des gestes de Jésus. Et c'est pour ça qu'au verset 39, ils disent, « Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Parce qu'en fait, ils annonçaient qu'il était le Messie. Et eux lui disent, « Tu ne peux pas les arrêter de t'adorer ainsi. » Et c'est cette fameuse réponse de Jésus qui dit que, il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est ce qu'on chante dans ce chant que nous aimons bien. Les montagnes le diront, les pierres crieront. La prophétie de Daniel 9:24, on va y revenir brièvement. À Bougin, hier soir, on en a reparlé, lorsqu'on a étudié le prophète Daniel. Verset 24 du chapitre 9 de Daniel, page 886. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, parlant du peuple juif de Daniel, sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, alors là il n'est pas question de l'édit de Cyrus qui parlait de la reconstruction du temple, là il est question de l'édit de Néhémie 2.1 encore une fois, jusqu'au prince Messie, l'arrivée de Jésus comme le Messie, il y a 7 et 62 semaines, donc 69 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Ensuite, après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'aura personne pour lui. le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Là, c'est la 69e semaine qui s'achève. Verset 27, on fait un saut dans l'histoire prophétique. Il fera beaucoup, avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. On sait qu'il y a une réalisation historique avec Antioche Épiphane qui a corrompu le temple de Jérusalem en faisant adorer une truie dans le Saint des Saints. Ça, c'est relaté dans le livre des Maccabées qui relate la période entre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais on sait que par ailleurs, ça annonce l'Antéchrist et la période de la Grande Tribulation, cette 70e semaine. Il est intéressant de se rappeler de ce que Jésus a... On a vu ça d'ailleurs la semaine dernière, lorsqu'on a parlé, on va le voir peut-être cette semaine parce qu'on n'a pas fini, Romains 11, 25, Paul disait aux Juifs et aux païens de Rome, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, que vous ne vous regardiez pas comme sages, parlant de l'endurcissement partiel et temporel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et l'Église, en fait, c'est une période de parenthèse dans l'histoire de la prophétie, dans le déroulement des 70 semaines, parce que les Juifs ont rejeté leur Messie, Dieu s'est tourné vers les païens. Dieu merci, c'était aussi dans le plan de Dieu, c'est pas une surprise pour Dieu qui a dû décider d'un plan B. Dieu, connaissant toutes choses, savait qu'il allait avoir ce temps de rejet et que ça allait être l'occasion pour les païens, que je suis, que peut-être certains d'entre vous sont aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc 19, 29, encore une fois, plus loin, plus tôt, on vient de lire ce passage. La question, c'est, vous savez qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite par Titus, qui n'était pas encore empereur à l'époque. Il a été empereur plus loin en 79, de 79 à 81. Lui, Titus, était le général et fils, je crois, de l'empereur Vespasien, qui a régné de 69 à 79 ans, après Jésus-Christ. Et en l'an 70, il y a eu trois légions romaines, la 5e, la 10e et la 15e, qui ont mené un siège de 9 mois, qui a résulté dans la mort de 1,5 million de Juifs. Il y a 1 million de Juifs qui sont morts pendant le siège, et 500 000 pendant la chute, la famine et les maladies qui ont suivi. Et dans Luc 19, toujours, au verset 41 et 44, que dit Jésus ? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, la raison parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus reproche aux Juifs de ne pas réaliser que cette entrée triomphale, c'était la prophétie des 70 semaines qui se réalisait. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus tient le peuple juif pour responsable de ce manque de connaissance. La parole, la vérité de Dieu, nous l'avons chantée, elle est la vérité, elle doit nous mener le long de notre vie, et aussi pour ces événements, on doit se référer à elle pour comprendre les événements prophétiques. Et encore une fois, on a tendance à dire, oh, il y a tellement d'interprétations, soit, Mais il y a des choses qu'on peut trouver et qui ne se prêtent à aucune supposition, à aucune interprétation. C'est clair dans la Bible. Alors après, quand on va dire que les dix cornes, ce sont les 10 États européens, il faut être prudent. Mais encore une fois, on a trop souvent tendance à avoir une connaissance émotionnelle de la Bible. Le petit Jésus est né, il est mort sur la croix, il vous aime, venez à lui. Encore une fois, c'est le but de cette étude, c'est de vous montrer que toute la Bible se tient, que c'est un message intégré, et qu'on peut y plonger ses recherches, on peut y plonger sa vie. C'est du solide, et qu'on peut être convaincu de la vérité de la Bible avec son intelligence, pas seulement avec son cœur. Le cœur va suivre, le cœur va nous persuader, mais encore une fois, étudions sérieusement, faisons des rapprochements, et ne nous laissons pas intimider par les fausses religions. Lorsqu'on parle de l'islam, lorsqu'on parle du bouddhisme, ils n'ont rien de comparable. Et les chrétiens, et notamment en France, sont vraiment... Il a fallu donc un intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. On sait que Jésus a été crucifié en l'an 32, Jérusalem a été détruite en l'an 70. Il y avait au moins 38 ans entre les deux événements, la 69e semaine et la 70e semaine. On sait que cette 70e semaine n'est toujours pas arrivée. Maintenant, on en est à plus de 2000 ans. Mais d'autres signes nous montrent qu'en fait, la Bible est en train de nous donner des indices pour savoir que cette 70e semaine, elle est plus très loin. Alors, bien sûr, la crucifixion, ça c'était un supplice qui n'existait pas à l'époque de David, lorsque le psaume 22 a été écrit. Et pourtant, ce psaume, on peut lire... Tournons-y, regardons le psaume 22. Psaume 22, un psaume messianique. On va lire à partir du verset 13, « De nombreux taureaux m'entourent. Des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule comme une lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fend au milieu de mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as réduit à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun os brisé. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du bluff. Tu m'as répondu. » Et là, on a une description très exacte du supplice de la croix, qui a été en fait introduit par les Perses beaucoup plus tard qu'à l'époque de David. Et en fait, la crucifixion, c'était essentiellement une mort par asphyxie. Et des médecins modernes de notre époque se sont penchés sur les phénomènes médicaux qui se produisent. La tétanisation, le fait que pour respirer, le supplicié va avoir tendance à pousser sur ses pieds pour essayer d'ouvrir un peu sa cage thoracique. C'était une mort, un supplice essentiellement cruel, qui pouvait prendre jusqu'à 9 jours pour amener la mort de la personne. C'était une mort réservée aux criminels de droit commun. C'était une mort infâme. Et pourtant, c'est la mort que Jésus a choisi avec laquelle il a choisi de mourir par amour pour nous. Souvent, et je l'ai dit, quand j'étais enfant, on voit des fois des films sur la crucifixion, on entend le bruit des clous dans les mains, on voit l'agonie. Et sans doute, le plus terrible, c'était pas l'aspect physique, mais l'aspect spirituel. Jésus qui a dit « Eli, Eli, lama sabachthani », pour dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette séparation volontaire, parce qu'il a pris ses péchés, nos péchés sur lui, lui qui n'avait aucun péché, cette séparation, c'était sans doute la chose la plus terrible auquel Dieu a consenti. Dieu le Père comme Dieu le Fils. On a sauté un peu la Sainte Cène. La Sainte Cène, on a dit donc c'était le mardi soir. Le mercredi, la journée du mercredi avait commencé pour les Juifs. C'était le jour de la Pâque qui avait commencé. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que malgré sa position de supplicié, de victime, Jésus en fait reste celui qui ordonne et qui contrôle les événements. Vous vous souvenez dans Matthieu 16, 5, regardons Matthieu 16, 5, Matthieu 26, 5, pardon. On a dit que c'était le complot du lundi. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Et là, il est dit, « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, il disait, « Pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que les Romains, s'il y avait la pagaille pendant la fête de la Pâque, ils allaient être obligés d'intervenir et ce serait mauvais pour le statu quo de ces chefs religieux et leur relation avec Rome. Vous savez que les représentants du gouvernement romain, les Ponce Pilate et les autres, voulaient surtout qu'il y ait la paix civile à Jérusalem et dans cette partie de l'Empire romain. Et donc, il s'était dit, surtout, on ne va pas le tuer le jour de la Pâque. Or, en fait, la crucifixion s'est passée le jour de la Pâque, en pleine journée. Et c'est Jésus qui a déclenché les événements en disant, lors de la Sainte Cène, ça c'est lorsqu'il a dit, il y en a un parmi vous qui va me livrer. Ça c'est Matthieu 26, 21. Regardons, c'est juste un peu plus loin. Le soir venu, reprenons même verset 17. Hein. Le premier jour des pains sans levain, c'était le jour de Pâques, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche. » C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc le jour de Pâque, le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi le pain dans le plat, c'est celui qui me livrera. » C'est lui qui va dire à Judas, ce que tu dois faire, fais-le rapidement. Il va en fait donner l'ordre à Judas, alors que les conspirateurs s'étaient dit, surtout ne faisons pas ça le jour de Pâques. Il l'envoie déclencher les événements. Et c'est la fameuse nuit où Jésus se retrouve à Gethsémané, où il va prier, où les 3 disciples à qui il a demandé de prier avec lui ne vont pas le faire parce qu'ils vont être fatigués. Il dit Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Il souhaite que la coupe qu'il doit prendre puisse passer ses lèvres, mais il a ces mots fameux, mais pas ma volonté, ta volonté soit faite. Là, un peu plus tard, il est arrêté. C'est là que Judas le trahit en venant l'embrasser pour signifier que c'est bien lui, Jésus. C'est là que Pierre va le trahir. Mais d'abord, Jésus va être soumis à 6 procès dans la nuit. Il va y avoir 3 devant les Juifs, et trois devant les Romains. Alors le premier, ça va être devant Anne. Anne, c'est un nom de fille, mais à l'époque, Anne, c'était le grand prêtre. Et puis, c'était en fait l'ancien grand prêtre. Caïphe, c'était le nouveau grand prêtre qui avait été nommé par Rome et qui avait une relation, ils étaient beau-père ou oui. Et il va y avoir un procès devant Anne, le grand prêtre, un procès devant Caïphe et puis un procès devant le Sanhédrin. Alors c'est là qu'il faut, en fait, quand on étudie, il faut aller chercher les renseignements dans les trois synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, et puis dans Jean aussi. Trois procès devant les Juifs et trois procès devant les Romains. Pilate, et puis Hérode, et puis encore Pilate. Alors Pilate, lui, il ne voit rien de mal avec Jésus. Il essaye, en bon fonctionnaire qui ne veut pas s'attirer des ennuis, il l'envoie devant Hérode. Le roi Hérode, qui était l'Idoméen, qui était en place par Rome, mis en place par Rome. Et puis lui, le renvoie aussi devant Pilate. C'est un peu comme ils ne savent pas quoi faire de ce cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pilate, le représentant du souverain suprême du monde de l'époque, ne trouvera rien pour accuser Jésus. Il dira lui-même, je n'ai rien à lui reprocher. Tous ces procès, c'est important de réaliser qu'ils sont illégaux. On pouvait par exemple ne pouvait pas attacher un prisonnier avant qu'il ait été reconnu coupable. Les juges ne devaient pas participer à l'arrestation des suspects. Or, ils font partie de la bande qui vient arrêter Jésus. On ne devait pas avoir de comparution pendant la nuit. Alors, tout ça se passe la nuit. On pouvait acquitter quelqu'un le jour même, mais pour une accusation, il fallait qu'il y ait au moins deux personnes qui soient d'accord, et ça devait être le jour suivant au plus tôt. Donc ça aurait reporté au jeudi. Le juge devait s'assurer que les intérêts de la personne étaient bien défendus et protégés. Il ne devait pas y avoir de violence, il ne devait pas y avoir de faux témoins. Là, on ne voit aucun témoin de la défense. Il ne devait pas y avoir de procès les jours de fête. Or là, c'est un jour de sabbat. C'est le jour de la Pâque. C'est un sabbat spécial. C'est un super sabbat, on pourrait dire. Le prêtre, vous vous souvenez que lorsqu'il entend les paroles de Jésus, il se déchire les vêtements. Lévitique 21 dit que le sacrificateur ne déchirera pas ses vêtements lorsqu'il agit avec autorité. Donc tout était faux, tout était illégal, tout était injuste au pire, dans la pire façon possible. Et puis vous connaissez cet épisode avec Barabbas, ça c'était une coutume, les responsables romains libéraient un prisonnier pour satisfaire le peuple le jour de la fête, justement le jour de la Pâque, et la foule est manipulée et il y a ce condamné à mort Barabbas, qui est un terroriste coupable, qui va être libéré. Et bien sûr, le parallèle entre Barabbas et Jésus et le parallèle entre nous et Jésus est tout à fait approprié. Nous sommes tous autant que nous sommes des Barabbas. Nous sommes coupables. C'est nous qui méritons la mort et c'est Jésus qui prend notre place. C'est Jésus qui se charge de la culpabilité qui était celle de Barabbas, qui se charge de notre culpabilité et qui s'offre en sacrifice. Vous vous souvenez aussi un épisode intéressant, c'est lorsque Pilate fait marquer Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous vous souvenez comment les responsables juifs essayent d'intervenir pour que surtout ils enlèvent cette plaque qui était au-dessus de la croix et qui était visible pour tous les gens de voir que Jésus était le roi de Nazareth, était le roi des Juifs. Alors on pense que c'était peut-être Hérode qui n'était pas content, mais en fait l'idée c'est que, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acrostiche ? L'acrostiche, c'est un poème ou un texte qui, au début de chaque phrase, a une lettre, Et lorsqu'on relie ces lettres entre elles, ces lettres signifient quelque chose. C'est un peu comme un acronyme, mais c'est dans une poésie. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. On pourrait faire un poème avec O-N-U. Et en fait, le texte en juif, de dire Jésus, Nazareth, roi des Juifs, ça épelait le tétragramme, Yahweh, Jéhovah. C'était un signe que c'était encore un signe, et les Juifs étaient furieux de voir que non seulement ils s'offraient en sacrifice, c'était la Pâque, mais il y avait marqué Yahweh sur cette croix. Un autre épisode intéressant, c'est le fait que on ne reconnaît pas Jésus après sa résurrection. On va pas passer trop de temps sur le fait que Jésus est ressuscité. On sait que c'est le grand miracle. C'est le fait que le sacrifice a été accepté, que nous sommes au bénéfice, que nous sommes justifiés par sa résurrection. Mais une chose qui frappe, c'est que personne ne semble reconnaître Jésus. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples sur la route d'Emmaüs, il leur faut attendre, ils passent la journée avec eux, l'après-midi du moins, et il faut attendre que ce soit le soir, lorsqu'il prend le dîner avec eux, qu'il ouvre, qu'il coupe, qu'il rompt le pain, et qu'il remercie le Seigneur pour ce repas, qu'il rend grâce, c'est là qu'ils le reconnaissent. Et un autre événement, c'est le fait que dans le prophète Isaïe, il est dit qu'on va le gifler, on va le frapper, on va lui cracher dessus, et on va lui tirer les poils de la barbe. Et toutes ces prophéties sont réalisées. On peut trouver des passages qui disent que oui, on a craché sur Jésus, on a partagé sa tunique, ça c'est le psaume qu'on vient de lire, le psaume 22, qu'on lui a... Mais le fait qu'on ait tiré sur les poils de sa barbe n'est pas mentionné ailleurs dans le Nouveau Testament. Et certains pensent que si on n'arrivait pas à le reconnaître, c'est justement parce qu'on lui avait arraché la barbe. Alors c'est une supposition, mais pour moi, j'étais toujours surpris de voir que dans cette prophétie d'Ésaïe, il n'y avait pas l'accomplissement de la prophétie. Et par contre, le fait que personne ne le reconnaisse pourrait s'expliquer. Encore une fois, ce n'est pas ce qui va mettre en cause votre foi et votre salut, mais j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez qu'il a été enterré dans la tombe d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Pour qu'il aille demander à Pilate la permission de prendre le corps, il fallait qu'il soit haut placé, qu'il soit riche. Il a eu cette permission. Et là encore, on a l'accomplissement d'une prophétie, et on a étudié en parlant des prophéties, le nombre de prophéties qui sont accomplies lors de cette semaine de la Passion, et on est tout à fait bouleversé de voir comment Dieu a permis l'accomplissement de ces prophéties. Alors il y en a qui ont pu être préméditées, le fait de dire, bon, le Messie doit rentrer sur un âne dans Jérusalem, allez me chercher un âne, je vais dire que je suis le Messie. Et le fait qu'il ait été trahi pour 30 pièces d'argent, le fait que cet argent ait été jeté dans le champ, pour le champ du potier, toutes ces prophéties, encore une fois, on a étudié un peu. L'idée que ça puisse être arrivé par hasard est complètement stupide. C'est complètement imbécile. Et ce qui doit, bien sûr, tout ça, c'est l'accomplissement des prophéties, la parole de Dieu, mais c'est surtout l'amour de Christ pour endurer ses sacrifices, ce supplice, cette séparation d'avec son Père. Comme on le dit un peu de façon un peu usée maintenant, on dit que c'est pas les clans qui ont retenu Christ sur la croix, mais c'est son amour pour moi et pour nous tous. La semaine de la Passion, c'est les évangiles, en fait, quand on regarde un peu le temps dédié à consacrer au récit de la vie de Jésus, on s'aperçoit que c'est presque un tiers des évangiles parlent de cette semaine de la Passion. Encore une fois, c'est le point culminant de toute la Bible. C'est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par amour.
et on peut plonger et se chercher l'accomplissement des fêtes. Tout est réalisé par ce sacrifice, et lui s'est offert une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices jour après jour, mois après mois, année après année, dont Jésus est mort une fois pour toutes. Voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, Élie.